Alors, un bon matin à vous tous. Un grand merci à Steve et les musiciens, ces beaux cantiques. Et comme on dit, il vaut mieux plus tard que jamais. Vous savez, il y a 3 semaines, quand j'ai apporté la parole, Maurice Ricard et son fils Gilles nous ont interprété un beau chant de Martin Luther. Et j'ai complètement oublié de leur dire merci. Alors, je prends l'occasion maintenant de le dire, c'était très apprécié ce chant que vous avez apporté. Alors, ce matin, je vous demande de prendre vos Bibles et trouver le livre de Néhémie. Et nous continuons notre étude dans ce livre, dont le thème principal est « Rebâtissant l'œuvre de Dieu et le peuple de Dieu ». Et si vous êtes ici pour la première fois, juste quelques mots pour vous mettre dans le contexte. Après l'exil en Babylone, des Juifs sont retournés en Israël après 70 ans d'exil. Et il y a 3 vagues successives qui arrivent en 538 avant Jésus-Christ sous Zorobabel et Josué. En 458 avant Jésus-Christ, une deuxième vague qui arrive sous Esdras. Ils ont réussi à rebâtir le temple, mais Jérusalem est une ville dont les murailles sont en ruine. Et le peuple, comme nous lisons au chapitre 1er, sont dans le pays, mais au comble du malheur et de l'opprobre. Alors Dieu voit son peuple, il a pitié de son peuple, il va susciter un homme, Néhémie, qui ayant un grand fardeau pour l'œuvre de Dieu et le peuple de Dieu, il va quitter le royaume de Perse, ça c'est en 445 avant Jésus-Christ, pour retourner en Israël, où il va mobiliser le peuple à rebâtir justement le temple, pas le temple, les murailles plutôt, et aussi à rebâtir, reconstruire aussi le peuple, et cela malgré une opposition farouche. Et dans notre étude, nous sommes arrivés au chapitre 2, verset 11. Néhémie arrive à Jérusalem. Alors, c'est notre texte que nous allons lire tout de suite. Alors, Néhémie 2, verset 11. « J'arrivais à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. » Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé, ce que je faisais, jusqu'à ce moment, je n'en avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je le dis alors. Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et il dit, levons-nous et bâtissons. Et il se fortifia dans cette bonne résolution. Sanballat, l'Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent et dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez contre le roi? » Et je leur fis cette réponse, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alors voilà notre texte. J'ai intitulé ce message d'une vision à l'action. Et l'idée principale qui découle de ce texte est une vision basée sur des estimations réalistes doit aboutir à un engagement dans lequel on dépend de Dieu malgré l'opposition de l'ennemi. Néhémie avait une vision. Voir la muraille reconstruite et le peuple reconstruit. Mais comment allait-il accomplir cela? Comment allait-il passer de la vision à l'action? Alors, c'est ce que je vous propose ce matin, comment cet homme de Dieu conduit par la bonne main de Dieu va passer de la vision à l'action. Alors, tout d'abord, pour mettre cela en pratique, pour passer de la vision à l'action, il fallait une estimation réaliste. Une estimation réaliste. C'est assez basique, n'est-ce pas? Commencer en sachant ce qu'il fallait faire. Et dans notre texte pour ce matin, cela impliquait deux étapes. Tout d'abord, il y a l'étape de la préparation. Et si vous regardez votre texte encore au verset 11, vous allez voir que Néhémie dit « J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours ». Avez-vous remarqué que Néhémie n'arrive pas à Jérusalem avec une fanfare, des trompettes retentissantes, tout excité en disant « Il y a du pain sur la planche, il y a du boulot, ôtez-vous de là, c'est moi Néhémie, les chansons du roi ». Je suis là, et regardez-moi faire, là. Je vais bien arranger les choses. Rien de cela. Il va arriver à Jérusalem, il va passer 3 jours inaperçus. Comme on dit en anglais, low profile. Il va passer en dessous du radar. Après quoi nous lisons au verset 12, je me levai, et pendant la nuit. Et j'aimerais vous suggérer qu'il y a 3 raisons pour cela. Tout d'abord, Néhémie avait besoin de combler un besoin physique. Est-ce qu'on peut dire qu'il était fatigué? Il venait de passer 4 mois de Suse en Perse jusqu'à Jérusalem. Si on prend le même trajet que Esdras avait pris avant lui, ça prend 4 mois. Au dos de chameau ou dos de cheval, on ne sait pas, ou juste, mais vous dites qu'il n'y a pas voyagé en première classe. Dans des conditions difficiles, c'est 1300 km sous un soleil brûlant. Il a peut-être rencontré quelques tempêtes de sable, je ne sais pas, mais il arrive à Jérusalem, il a besoin du repos. Alors, il va se reposer. 2 applications. Avant de s'embarquer dans un projet, il y a des décisions importantes, parce qu'il va se mettre à l'œuvre plus tard. Mais il y a des décisions importantes à prendre. Vaut mieux être frais et dispo. Des Romains disaient, âme saine dans un camp saint. Et même en faisant l'œuvre, il faut toujours faire attention de ne pas abuser le camp, notre camp qui est le temple du Saint-Esprit. Il y a un temps pour travailler, mais aussi un temps pour se reposer. On n'est pas l'homme bionique. Et même le Seigneur a dit à ses disciples, venez-vous à l'écart et reposez-vous un peu. Très bonne leçon. Et deuxièmement, il y avait aussi un besoin spirituel. Et ce patron-là, on le voit à travers la parole de Dieu. Les hommes de Dieu, avant d'entreprendre un ministère important pour Dieu, ils prennent toujours quelques temps à l'écart. Je donne l'exemple de Jésus-Christ. Avant de commencer son ministère, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans le désert. 40 jours. L'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, il va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il est sauvé. Le Seigneur l'avait appelé pour cette œuvre, aller annoncer l'évangile aux païens. Qu'est-ce qu'il dit dans Galates? Je ne consultais ni le chair ni le sang. Je suis allé en Arabie. Là, il va passer 3 ans avant de se lancer dans son ministère. Et ici, Néhémie aussi va passer 3 jours avant de commencer son ministère. Quelqu'un a bien suggéré que pour Néhémie, c'était un temps propice pour regarder en arrière, se rappeler comment Dieu l'avait conduit jusqu'à là. C'était un temps aussi propice pour regarder en dedans de lui et sonder son propre cœur, justement pour voir s'il y avait des bons motifs. Est-ce qu'il allait faire cette œuvre pour sa propre gloire ou bien est-ce qu'il y avait la gloire de Dieu justement devant lui? Et c'était un temps aussi propice, regarder en arrière, regarder en dedans, mais aussi regarder en haut, garder ses yeux fixés sur Dieu. Et deuxièmement, une estimation réaliste. Savoir ce qu'il faut faire doit aussi passer par l'étape de la préparation, mais aussi l'étape de la planification. Et c'est ce que nous avons dans les versets 13 à 15, où Néhémie va se lever après les 3 jours. Il va faire une tournée nocturne, probablement au clair de la lune. Et puis, il s'en va sur son cheval. Et il y avait eu ce rapport, oui, Anani, l'un de ses frères, lui avait donné ce rapport. Mais maintenant, il va sur les lieux pour voir de ses propres yeux le travail qu'il avait accompli. Et c'est très intéressant le détail qu'il nous donne de son parcours, les différents noms des portes. Nous avons la porte de la vallée, où est-ce qu'il va sortir ici. Il va faire ce trajet ici. Il va aller à la porte de fumier, il va remonter, puis après ça, il va retourner, puis il va rentrer. Très intéressant, mais il ne faut pas manquer pendant ce trajet l'essentiel. Qu'est-ce que Néhémie faisait pendant sa balade? Le texte nous dit quelque chose d'intéressant. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par le feu, et encore au verset 15, nous avons la même chose. Je considérais encore la muraille. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que quand il est rentré chez lui, il savait exactement ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qui l'attendait. Il savait que rebâtir les murailles de Jérusalem n'était pas une mince affaire. Et à cause de ses observations, il a su que ce serait un travail exigeant. La muraille avait plus d'une mille de long tout autour de la ville de Jérusalem. Il fallait qu'il soit 3 à 4 pieds d'épais et aussi 15 à 20 pieds de haut. Alors ça, c'était tout un contrat, là, toute une construction. Alors il savait que ce serait un travail exigeant. Ce serait aussi un travail hasardeux parce que sans doute il a remarqué qu'il y avait des endroits là, où est-ce que ce serait assez dangereux pour travailler. Et là, peut-être il faisait ses calculs, mais qui est-ce que je mettrais là, puis comment est-ce qu'on va justement aborder justement cet endroit, la muraille, où est-ce que c'est plus dangereux pour travailler. Et il savait aussi que ce serait un travail de coopération. Ce n'est pas justement l'œuvre d'un seul homme. Il savait que ça va prendre justement des hommes et la coopération de tout le monde pour être capable de reconstruire les murailles de Jérusalem. Tout le monde devrait mettre la main à la pâte. Et j'ai sorti ici une petite application. Apprenons de la démarche de Néhémie, dans ce qu'il a fait, dans cette étape de préparation et de planification, avant de commencer une œuvre, surtout dans le domaine spirituel, évitant d'agir par un simple coup de tête. Combien de gens s'en battent, tout excités, dans des projets pour lesquels ils ne sont pas outillés? Et quand l'excitation tombe, il abandonne. Souvent déçu, même des fois dégoûté. Qu'on ne soit pas obligé de dire de nous, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Mais au contraire, trouvons notre sphère de travail. Soyons là où le Seigneur nous a placés avec nos dons et nos capacités. Et selon les paroles de l'Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Alors voilà la première étape. Deuxièmement, Si on veut passer de la vision à l'action, cela impliquait non seulement une estimation réaliste, mais aussi dans le texte, nous voyons un exposé rassemblable. Si Néhémie allait impliquer d'autres gens dans ce projet, il fallait non seulement que ces derniers sachent ce qu'il fallait faire, mais aussi pourquoi il fallait le faire. Et laissez-moi vous dire qu'il y avait devant lui tout un défi. Comment allait-il surmonter l'obstacle de l'apathie? C'est le contentement avec le statu quo qui sape toute énergie et initiative. Et ça faisait plus de 100 ans là, que les murailles, la muraille était en ruine. Et sans doute, quelques-unes s'étaient habituées. Là, chaque jour, ils sont allés à leur travail ou quoi que ce soit, puis ils voyaient ça, puis ils voyaient ça, puis ils voyaient ça. Puis il n'y a rien qui changeait, rien qui bougeait. Fait que, bof, la vie continue. Voilà, Néhémie arrive pour brasser des choses, pour apporter un changement. Pas facile. Et comment allait-il surmonter aussi l'obstacle du découragement? Le peuple avait fait une tentative et cela avait échoué. Si vous lisez le livre d'Esdras, chapitre 4 et chapitre 5, vous allez voir qu'ils avaient été empêchés. Ils pouvaient bien dire, « Oh, ça ne donne absolument rien. On a déjà essayé puis ça n'a pas marché. » Vous savez, il n'y a rien qui a changé. Aujourd'hui, c'est les mêmes obstacles quand on veut embarquer dans un projet, c'est les mêmes obstacles qu'on rencontre très souvent. L'apathie et le découragement. Bof, ça fait des années que ça passe de même. Pourquoi tu veux changer les choses? Ou bien, qu'est-ce que ça fait d'essayer? Ça ne marchera pas. Alors, comment allait-il mobiliser ce peuple pour qu'il s'engage à rebâtir les murailles de Jérusalem? Comment allait-il faire pour vendre sa salade, comme on dit, ou bien la salade de Dieu? J'aimerais vous faire remarquer qu'il n'utilise pas des techniques de marketing, très populaires de nos jours, ni des techniques de la manipulation. Si vous ne faites pas ça, là, je vais bouder, vous allez me blesser dans mon âme, puis ça va aller mal. Ou bien des techniques d'utiliser des menaces. Si, là, vous ne faites pas cela selon ma manière, là, je débarque, puis vous allez voir, ça va rester demain. Qu'est-ce que Néhémie fait plutôt? Il va motiver le peuple. Et si vous regardez, vous regardez votre texte encore au verset 17, il va leur dire ici, et là c'est ma version, vous voyez le malheureux état où vous êtes. Allez, rebâtissez la muraille et vous ne serez plus dans la preuve. Dans d'autres mots, c'est de votre faute si vous êtes dans le pétrin. Voilà ce qu'il faut faire. Je vous donne la solution. Et en passant, vous pouvez me contacter à mon bureau. Ça ne m'intéresse pas de me faire salir les mains. Je n'étais même pas impliqué dans cela qui vous a amené jusqu'à là. Est-ce que ce qu'il leur dit? Non, vous n'avez pas ça écrit dans votre Bible. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de tuer la motivation dans l'œuf, c'est de blâmer et de critiquer. Et en revanche, quand nous nous identifions avec la problématique, on va stimuler la motivation. Et voilà pourquoi, au verset 17, nous lisons la bonne version que vous avez dans votre Bible, le malheur. Heureux état où nous sommes. C'est venez, rebâtissons la muraille. Et c'est nous ne serons plus dans l'opprobre. Vous savez, le fait qu'imiter, j'ai un autre grand homme de Dieu aussi en tête ici, c'est Daniel. Le peuple est en exil. Daniel chapitre 9. Daniel est un homme pieux. Il ouvre ses fenêtres, il prie trois fois à Dieu. Et pourtant, dans sa prière de confession, il va dire, « Seigneur, nous avons péché, à nous la confusion de face. » Il s'identifie, il voit l'unité du corps, au lieu de pointer le doigt pour dire, « C'est de leur faute. » il dit c'est notre faute, c'est notre péché, parce qu'il voit l'unité. Et Néhémie ne fait que justement imiter ce grand homme de Dieu, Daniel. Il s'identifie avec la problématique. Et dans son discours, il va les motiver maintenant en leur montrant pourquoi le statu quo et le découragement n'est plus acceptable. Tout d'abord, il va focaliser sur la problématique et l'implication. Jérusalem détruite et ses portes consumées par le feu, c'est une source de malheur et de probe, et on ne peut pas laisser ça comme cela. Il faut se rappeler qu'à l'époque, une ville sans murailles et portes était à la merci des pillards. Le peuple vivait constamment dans un climat d'incertitude, d'insécurité, de crainte, de désespoir. Pourquoi avoir des projets là, si tu pouvais tout perdre d'un jour au lendemain? Même la vie, dans un instant. Mais en plus de cela, Jérusalem détruite et ses portes consumées par le feu étaient une source de honte pour la nation d'Israël. Pouvez-vous imaginer le païen là, qui passe tous les jours? Il voit la muraille détruite, il voit que ça ne change pas, ça ne bouge pas. Et qu'est-ce qui passe dans sa tête? Où est leur Dieu? Sans doute il les a abandonnés. Quelle honte pour le peuple de Dieu et quel discrédit justement pour la réputation de Dieu. Et deuxièmement, il va motiver le peuple en proposant une solution. Il va leur dire exactement qu'est-ce qu'il fallait faire pour sortir justement de cette situation qui était honteuse pour ce peuple-là. Venez, rebâtissons la muraille et nous ne serons plus dans la probe. Est-ce que ça peut être plus clair que cela? Quelques observations. Venez, c'est le temps d'agir. Arrêtons de tourner en rond, c'est le temps pour l'action. Arrêtons de tergiverser. Rebâtissons, c'est le temps de s'impliquer. C'est le temps de s'impliquer. Nous sommes tous concernés, nous avons tous quelque chose à contribuer, c'est notre projet, c'est le temps de s'impliquer. La muraille, c'est ce qu'il nous faut. Pas un palais, peut-être qu'il y avait quelques-uns qui disaient, ah, ce serait le fun d'avoir un beau palais. Non, 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 c'est la muraille que ça nous prend. Pas une arène. Pour moi, il y avait des sportifs dans un groupe. Oh, j'aimerais avoir ça, les courses de chevaux. Non, non, ça prend une muraille. Peut-être un chameau-drome, ce serait le fun. Non, Néhémie dit, c'est une muraille. C'est ça nous prend, c'est la solution. C'est ce qu'il faut bâtir. Et il va aussi motiver le peuple en leur montrant les conséquences de ce geste qu'ils vont poser. Nous ne serons plus dans l'opprobre. Et parce qu'il sait que dans cette entreprise-là, il y a tout un enjeu spirituel. Ce que la reconstruction va apporter une solution efficace pour régler la problématique et aussi une solution efficace pour redorer leur témoignage et pour donner gloire à Dieu. Et pour bonifier justement son appel, que de mieux pour chasser le découragement, pour inspirer la confiance, pour rallier les indécis à cette bonne cause qu'un bon témoignage personnel. Là, il va leur dire, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et là, on va voir la bonne main providentielle de Dieu que nous voyons dans le chapitre 2. Comment est-ce que, dans la providence de Dieu, Néhémie a eu la permission de partir. Dieu, dans sa providence aussi, avait permis que le roi lui donne des lettres de passage. Dieu, dans sa providence, avait justement pourvu, il y avait des provisions, il y avait besoin justement de bois pour les portes de la muraille et pour sa maison. Et aussi, Dieu, dans sa providence, avait fourni justement la protection. Il y a eu des cavaliers et des gens qui l'ont accompagné. Cette bonne main providentielle de Dieu qui démontrait que Néhémie n'était pas parvenu à Jérusalem parce qu'il était un homme en moyen. Il y avait de l'argent, il y en avait, il était riche, il était échanson du roi. Ou parce qu'il était un bon orateur, il avait réussi leur à flatter le roi dans le sens du poil. Ou bien que le roi, il avait un grand cœur. Non, non, non. Avant tout, la bonne main de Dieu démontrait à ces gens devant Néhémie que Dieu approuvait ce projet. Il était derrière le projet. Il avait donné des beaux clins d'œil en pourvoyant à tout ce Néhémie avait besoin jusqu'à là. Et certainement, il allait pourvoir aussi pour la prochaine étape. C'était d'accomplir la reconstruction de la muraille. Alors, Dieu a approuvé le projet. Et même le puissant roi de Perse l'a approuvé aussi. Et nous avons un beau texte dans Proverbes 16, 17. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même à son égard, même ses ennemis. Et troisièmement, si on va passer de la vision à l'action, une estimation réaliste, savoir exactement ce qu'il faut faire. Dans ce texte, nous avons un exposé rassemblant, rassemble les gens autour. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire ce projet? Et troisièmement, un engagement résolu. Et quelle belle réaction de ces gens-là. Hein? Levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifient dans cette bonne résolution. Je peux presque, c'est presque palpable, hein, n'est-ce pas, l'enthousiasme, l'excitation, l'engagement à s'impliquer malgré la foi requise, l'engagement de coopérer les uns avec les autres et l'anticipation justement du résultat escompté. Et malgré le fait qu'on n'a pas mis l'emphase de ce livre sur le leadership, j'aimerais quand même dire quelques mots à ce stade-ci. Parce que Néhémie, c'est le livre par excellence pour le leadership. Juste dire quelques mots. Le leadership, c'est l'art d'amener les gens à faire ce qu'ils devraient faire parce qu'ils veulent le faire. Quel contraste avec ceux qui ont recours à la manipulation ou des menaces. C'est d'amener les gens à faire ce qu'ils devraient faire, mais pas ce qu'ils veulent. Et Néhémie a réussi cela. Et voilà, les Juifs avaient besoin d'un homme courageux, énergétique, confiant, un homme qui pouvait stimuler leur zèle par la contagion du sien, un homme qui avait la capacité de rassembler leurs forces et d'organiser et diriger leurs ressources. Et Dieu, dans sa grâce, il avait suscité un tel homme, Néhémie, qui va maintenant coiffer un nouveau chapeau. En Perse, c'est les chansons du roi. En Israël, il devient Néhémie le constructeur, et plus tard, il va devenir Néhémie le gouverneur. Mais dans ce texte ici, il est le constructeur. C'est lui qui va diriger le peuple dans la reconstruction de l'œuvre à Jérusalem, tant matériel que spirituel. Néhémie qui savait ce qu'il fallait faire, Néhémie qui savait pourquoi il fallait le faire, et maintenant Néhémie qui savait comment il allait le faire. Malgré l'opposition de l'ennemi. Si on regarde notre texte au verset 19, Sanballat, l'Horonite, Tobija, le serviteur Ammonite et Geshem, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Moi, ce fait-il qu'ils savaient qu'est-ce qui se passait dans le camp de Néhémie. Je me suis posé la question. Est-ce qu'il y avait une taupe là, dans l'organisation de Néhémie? Un espion qui était là, qui transmettait justement tout ce qu'il faisait. Mais si on regarde les tactiques de l'ennemi, la moquerie et le mépris, comme quelqu'un a dit à la table du Seigneur ce matin, là, ça fait des fois plus mal qu'une tape dans la figure. Et je pouvais imaginer leurs paroles, « Commencez même pas cette œuvre, vous n'êtes pas capable, ça ne vaut pas la peine, c'est trop énorme. » Puis ensuite, la tactique de l'intimidation. C'était pour calculer, pour faire peur aux plus timides. Vous êtes en train de fomenter une rébellion contre le puissant roi de Perse. Avez-vous perdu la boule? Il viendra avec son armée et vous serez tous zigouillés. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, c'était un bon signe. Vous savez, parce que, comme quelqu'un a dit, ça dérangeait justement le monde des ténèbres. Je vais arrêter là. Mais quelqu'un a bien dit que Satan vit seulement les cibles qui bougent. Et ce maintenant, c'était un signe que cette œuvre était de Dieu parce qu'il y a eu l'opposition. Et Satan voyait cela, il a suscité justement dans ces trois personnes de l'opposition contre l'œuvre. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Néhémie? Est-ce qu'il va reculer devant l'opposition, tout épeuré? Les écoute-t-il? Non. Parce qu'il savait que Sanballat et compagnie n'écoutaient pas la même source que lui. Ça, c'est important. Et comme Michel dit souvent, Néhémie était plugué à la bonne source. Il pouvait dire comme le psalmiste, « Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. » Et parce qu'il était plugué à la bonne source, il savait que malgré l'opposition, la reconstruction sera faite et justement en dépendant de Dieu. Je fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Quelle réponse! Quelle réponse! Quelle confiance en Dieu! Malgré ce que vous pouvez faire, malgré ce que vous essayez de faire, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Et quelle incitation pour respecter leur engagement, quelle incitation à avancer avec le projet malgré l'opposition. Et dans cette réponse, nous avons trois choses. Nous avons le contrôle divin de la situation. Vous voyez ce que Néhémie dit? C'est pas parce que moi je suis là, vous aurez le succès. Le Dieu des cieux donnera le succès. Les commentateurs nous ont dit que Geshem, l'arabe, il patrouillait et contrôlait le territoire situé au sud de Jérusalem. Ça, c'était, justement, il y avait le contrôle sur la mainmise. Sanballat, lui, contrôlait le territoire, il patrouillait et contrôlait le territoire au nord de Jérusalem. Et Tobija, l'ammonite, patrouillait et contrôlait l'est de Jérusalem. Mais Néhémie savait que son Dieu, le Dieu des cieux, patrouillait et contrôlait les cieux et toute la terre. Et quel beau texte nous avons dans Deutéronome 4:39. Sache que l'Éternel est Dieu en haut, dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre. Donc le Dieu des cieux, vous pouvez contrôler ça, patrouiller. Mais moi, j'ai un Dieu qui est plus grand. Il patrouille le ciel, il patrouille la terre. C'est lui qui va nous donner le succès. Deuxième chose, dans cette réponse, nous avons la bénédiction divine sur la situation. Nous donnera. Néhémie comptait encore sur la bonne main de Dieu pour bénir en leur donnant tout ce dont ils avaient besoin, tant matériel que spirituel. Et nous avons un beau texte dans 2 Chroniques 29, 12, où est-ce que David, dans un contexte similaire, c'est de construire la temple à Jérusalem. Ce n'est pas lui qui va le faire, mais c'est son fils Salomon qui va le faire. Et qu'est-ce que David va dire? C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses, y compris la reconstruction d'une muraille. Alors Néhémie focalise sur son Dieu. Il est Dieu des cieux qui apporte l'opposition. Il est Dieu qui pourvoit, sa main est là pour donner. Et finalement, dans cette réponse, nous avons la réussite du projet. Il va nous donner quoi? Le succès. Et il y a des beaux textes ici dans Psaume 127, 1, dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, sont voués à l'échec. Mais inversement, quand l'Éternel est dans une œuvre, et quand l'Éternel est derrière une œuvre, et quand l'Éternel bâtit la maison, le succès est garanti. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et puisque Néhémie était le serviteur de Dieu qui avait à cœur l'œuvre de Dieu pour la gloire de Dieu, il focalise sur le succès. Et pour lui, l'échec n'est pas une option. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Et troisièmement, dans cette reconstruction qui sera faite malgré l'opposition, en dépendant de Dieu et finalement en coopérant avec Dieu. Il va dire à ceux qui l'opposaient, nous, ses serviteurs, serviteurs de Dieu, des cieux, bien entendu, nous nous lèverons et bâtirons. Dans d'autres mots, nous allons bâtir, mais en étant serviteurs de Dieu des cieux, en étant des serviteurs soumis à leur maître, nous allons bâtir selon ses plans et selon ses directives. C'est son projet. C'est lui qui est le contremaître. Nous sommes ses serviteurs, ses ouvriers, ses co-ouvriers. Nous allons coopérer avec Dieu, nous allons bâtir avec lui. Nous, ses serviteurs. Et pour cette raison, il donne un petit... il taquine un peu à la fin, Néhémie. Cette raison, il va dire, vous, Sanballat, vous, Tobija, vous, Geshem, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem, parce que Dieu ne travaille pas, Dieu ne bâtit pas avec ses ennemis. Et quelle grâce pour nous, hein? Quelle grâce pour nous d'être impliqués dans l'œuvre de Dieu, sachant que nous pouvons travailler de mieux en mieux quand l'apôtre Paul nous encourage à l'œuvre du Seigneur. En conclusion, je termine avec ceci. Néhémie faisait face à une situation difficile. Et pour ceux qui ont déjà lu le livre, vous savez que l'opposition n'ira pas en diminuant. Ça va devenir de plus en plus intense. Mais pourtant, comme nous allons voir dans les semaines à venir, il réussit, avec son peuple, à rebâtir la muraille dans 52 jours. Quel exploit! Mais comment a-t-il fait? Comment est-ce qu'il a gardé justement son calme et son sang-froid devant les ennemis qui étaient vraiment déterminés d'arrêter l'œuvre? J'aimerais vous suggérer que tout au long de son parcours, il a gardé ses yeux fixés sur Dieu. Et je vous donne juste rapidement trois références. Quand Néhémie est seul, dans le verset 12, il arrive à Jérusalem, il passe 3 jours, il est seul. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je n'avais dit à personne ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Ici, ses yeux sont sur Dieu. Quand il est devant ses hommes, qu'est-ce qu'il va leur dire? Comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Quand il est devant les ennemis, qu'est-ce qu'il va leur dire? Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alors qu'il soit seul, qu'il soit devant ceux qui sont pour lui, qu'il soit devant ceux qui sont contre lui, ses yeux sont fixés sur Dieu. Est-ce que c'est étonnant qu'il a réussi? Et vous savez, nous sommes dans une situation difficile. Nous avons à rebâtir le témoignage de l'assemblée de Capnamadmen. Et nous avons aussi à rebâtir un bâtiment adéquat pour l'Église. Et juste en parlant du bâtiment, le côté physique, là, ça c'est propice pour amener la discorde, des disputes. Juste s'accorder sur les plans, là, ça pourrait être justement un sujet. Tout un défi. Alors, comment est-ce qu'on va surmonter ces obstacles? Mais un peu comme Néhémie, gardons nos yeux sur le Seigneur tout au long du parcours. Et comme quelqu'un a bien dit, c'est ça la vie chrétienne. Parce que si tu regardes un autre chrétien, tôt ou tard, tu vas être déçu. Si tu regardes à ta situation, tôt ou tard, tu vas être déçu. Si tu regardes à toi-même, tôt ou tard, tu vas être déçu, à moins que tu sois enflé d'orgueil. Mais qu'importe, quand on soit dans une situation difficile ou que la vie est belle, la vie chrétienne, c'est toujours avoir les regards fixés sur Jésus. Et pour ceux qui sont ici ce matin, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, ça aussi, c'est ce que vous devriez faire. Gardez vos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. À la croix de Calvaire, Christ est mort pour les pécheurs, il est ressuscité. Et un seul regard, comme on chante parfois dans les bons vieux cantiques, un seul regard à la croix sanglante. Ça peut faire toute la différence. Savoir que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification. Alors, j'aimerais vous encourager, avançant par pas, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais une chose est certaine, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Il est avec nous et gardons nos yeux fixés sur lui. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci pour cet exemple de cet homme de Dieu, Néhémie, qui a su avancer avec toi, les yeux fixés sur toi, sachant que c'est toi qui construisais, c'est toi qui bâtissais. Merci pour la grâce que tu nous accordes aussi d'être couvrés avec toi. Et Seigneur, pour ce qui nous concerne, notre situation, nous voulons nous humilier sous ta main puissante en te demandant de nous relever. Et que nous soyons comme Néhémie, Seigneur, que nous coopérons avec toi afin que nous puissions relever le témoignage de cette assemblée et même aussi pour le bâtiment, Seigneur, que ça puisse être pour ta gloire. Nous te prions de nous séparer avec ta bénédiction. Merci pour toutes tes grâces. Au nom de Jésus. Amen.